Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusé tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés par François Connac aujourd'hui avec Nicolas Mathias à la technique et préparés par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Avril Ventura, Jeanne-Marie Roux, Adèle Van Rett. Adèle, que vous allez entendre dans un instant discuter avec quelques élèves de terminale du lycée Jacques Brel à La Courneuve. Car nous arrivons ce vendredi à l'issue de la deuxième semaine que les Nouveaux Chemins consacrent au bac philo. 10 professeurs de terminale se sont prêtés pour nos auditeurs et leurs enfants à l'exercice fastidieux et nécessaire néanmoins de la dissertation de philosophie en présence de leurs élèves. 10 professeurs dont aujourd'hui Marie Zemel, qui enseigne au lycée Jacques Brel de La Courneuve et qui va se demander pour vous s'il est possible de tout démontrer. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Bonjour. Alors, peut-on tout démontrer? C'est la question du jour.
Ouais, c'est la question du jour à laquelle on va essayer de répondre et on va peut-être commencer d'abord par la poser aux élèves eux-mêmes pour essayer de voir comment un étudiant en terminale à la fin de l'année, après une année d'études de philosophie, peut réagir face à un tel sujet. Donc on a 3 élèves avec nous autour de la table, Mélissa Salvan, Malika Ouedraogo et Nazir Habiboula. Bonjour à tous les 3.
Bonjour.
Alors, Mélissa Salvan, vous imaginez que vous arrivez le jour du bac et que vous découvrez ce sujet-là, donc le jour de l'épreuve de philosophie, peut-on tout démontrer? Qu'est-ce que vous vous dites? Comment est-ce que vous réagissez face à un tel sujet?
J'aurais tout de suite pensé aux mathématiques. Et puis dans le mot démonstration, il y a le montrer. Donc j'aurais ça en rapport avec les mathématiques. Il y a l'idée d'hypothèse et de rationalité et on attend des preuves.
Et ça, est-ce que ce sont des thèmes, donc les mathématiques et les sciences, que vous avez étudiés cette année?
Oui.
Donc vous auriez des références à convoquer? Là, il y a peut-être des auteurs qui vous viennent à l'esprit ou pas encore?
Non, du tout.
Donc ça viendra plus tard. Et Malika Ouedraogo, qu'est-ce que vous vous dites face à un tel sujet?
Mais je vois ce sujet assez difficile puisque, en même temps, c'est un sujet assez partagé puisqu'on ne peut pas tout démontrer. Et deuxièmement, l'idée, c'est justement de prouver... Comment est-ce qu'on peut démontrer quelque chose tout en prouvant la vérité des arguments avancés? Et c'est là toute la difficulté de la dissertation philosophie, puisque la dissertation en elle-même est une démonstration.
Donc c'est un sujet qui selon vous, renvoie à la méthode même de la dissertation.
Voilà, une démonstration qu'il faut démontrer tout en prouvant la vérité de cette démonstration.
Et Nazir Habiboula?
Bien, je pense que c'est un sujet... En fait, dès que je vois ce sujet, il m'a l'air facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots, en fait. En fait, ça joue beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup de mots à étudier. Et quand on voit ça, ça a l'air beaucoup plus large et il y a beaucoup d'idées qui viennent. Donc on peut voir un oui pour répondre à la question ou bien non, ou bien étudier différents points de vue de la question. Donc par exemple, en parlant des démontrés, on pourrait justement se poser la question de comment on pourrait démontrer la chose. Et si vraiment on peut appeler ça démontrer, car tout n'est pas démontré, ça voudrait dire que ça serait fini. Et quand on parle de tout aussi, ça voudrait dire que ça engloberait beaucoup de choses. Alors que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont discutables. Donc voilà, bon, après, quand on peut lire peut-on, on peut tout de suite penser à est-ce qu'on a la capacité de. Et donc voilà, c'est aussi une piste qu'on pourrait exploiter.
Et donc là, une fois que vous avez analysé le sujet, est-ce que vous venez de faire, est-ce qu'il y a des références, déjà des philosophes qui vous viennent à l'esprit ou pas encore?
Non.
Donc ça viendrait plus tard dans le développement. Marie Zemel, est-ce que c'est un problème, une fois qu'on a décortiqué le sujet, de ne pas tout de suite avoir des références philosophiques qui vous viennent à l'esprit?
Moi, je dirais même qu'il vaut peut-être mieux pas en avoir. Je commencerai un peu par provocation comme ça. Parce que souvent, la pensée des philosophes occulte la pensée des élèves. Et je rappelle, puisqu'on fait un peu de la méthode pour la révision du bac... que l'épreuve de philosophie, c'est d'abord juger un élève sur sa capacité à réfléchir par lui-même, certes en se nourrissant des pensées des auteurs anciens, mais comme ça relève souvent d'un argument d'autorité qui empêche la pensée elle-même de se déployer, je préfère presque parfois que mes élèves commencent, pas comme ils ont fait là, c'est-à-dire à dire des choses peut-être évidentes, ou pas si évidentes que ça. En tout cas, je pense que le point de départ d'une disserte, c'est partir déjà de l'opinion, on va dire, commune, puisque c'est un peu ce que je répète depuis le début de l'année, Et l'opinion commune, ben, comme ils l'ont dit tout à l'heure, enfin, dans les propos que j'ai entendus, a tendance à faire de la démonstration quand même quelque chose de prestigieux, de magique presque, de magnifique. J'ai noté aussi que, ben, ce que disait Nazir tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de mots dans cette disserte. C'est vrai que ce n'est pas pratique. On leur dit toute l'année, faites attention aux mots. Alors, en général, les sujets sont longs. Il y a plein de petits mots. Alors, en général, ils ne repèrent bien sûr pas le mot qu'il faut repérer. Et puis là, comme il n'y a que trois mots, bon, on va aller vite. Qu'est-ce qu'il va falloir repérer comme mot important dans ce sujet? Et il a dit tout à l'heure, les trois ont fait la même remarque. Dans démontrer, il y a montrer. Voilà, et je trouve que ça pourrait être un bon point de départ plutôt que de partir de... De mes amis les philosophes.
Alors, il y a une autre remarque peut-être à faire à partir de ce que Nazir a dit, qui était intéressant, c'était sur le peut-on. Mmh. En général, le pouvoir, c'est à la fois avoir la capacité de, hein, pouvoir courir le 100 mètres en 10 secondes, c'est une question de capacité, mmh. Tout le monde ne l'a pas, moins qu'on puisse dire. Pouvoir, c'est également avoir le droit de. Mmh. Or ici, c'est très intéressant de voir que spontanément, Nazir, face à un tel sujet, élimine d'emblée, parce qu'effectivement, ça n'est pas la question, le sens de pouvoir au sens, enfin la définition de pouvoir comme avoir le droit. Ici, c'est une question également de capacité. Sommes-nous, nous humains, en capacité de tout démontrer, Marie Zemel?
Alors, si on commence le sujet de cette façon-là, moi, je reviendrai après quand même sur l'élimination du « a-t-on le droit de ?» parce que je pense qu'il ne faut pas l'éliminer. Alors, a-t-on la capacité de ? Forcément que non, puisque, comme dirait Descartes, l'entendement de l'être humain étant limité, sa volonté, par contre, étant infinie, il est clair qu'il y a toujours cette disproportion entre l'un et l'autre qui fait qu'à un moment donné, je vais vouloir tout démontrer au risque peut-être de me tromper.
Vous voyez que vos amis les philosophes ne sont pas très loin quand même.
Jamais.
Allez-y.
Je m'en nourris malheureusement, mais voilà. Donc en fait, peut-on tout démontrer? Non, il est clair que du point de vue de l'être humain, c'est pas faisable, c'est même pas souhaitable. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. C'est peut-être même complètement insensé. Ça va être peut-être le fil conducteur que je verrai dans ce sujet, de vouloir tout démontrer. En plus, il y a ce tout, cette radicalité absolue qu'il y a dans le sujet, quand même, qui est marquée par le tout. C'est pas peut-on démontrer, qu'est-ce que démontrer, c'est peut-on tout démontrer. Rien n'échapperait à la démonstration, que ce soit l'existence de Dieu, ça a été tenté, hein. Que ce soit peut-être même peut-on démontrer la perfection d'un régime politique. Est-ce que c'est possible de démontrer ce qu'il faut faire pour que les hommes s'entendent tous les uns les autres, qu'on renonce à l'orgueil individuel? Ça serait tellement facile, finalement, de tout démontrer.
Ce serait encore plus facile, d'ailleurs, qu'il suffise de le démontrer pour le faire. Mais alors, venons-en donc au sujet. On a bien vu qu'il y avait des mots ici qui étaient en jeu. Donc, peut-on pouvoir avoir le droit et en même temps être en capacité de le tout, qui désigne donc cette totalité problématique en elle-même? Cette démonstration où vous pointez, à l'unisson d'ailleurs de vos élèves, qu'il y a également dans la démonstration, dans le fait de démontrer, le fait de montrer. Mmh. Comment, en analysant les termes du sujet, puisque c'est toujours l'objet du début de ces émissions, car c'est l'objet du début d'une dissertation, Marie Zemel, comment est-ce qu'en analysant tous ces termes, vous produisez une problématique qui servira ensuite de fil conducteur à la dissertation?
Alors voilà, moi je vais partir peut-être de cette proximité du verbe montrer et du verbe démontrer. Alors on dit un pronom démonstratif. On dit une démonstration aérienne. On dit une démonstration de sentiment. Je pars d'expressions simples que les élèves connaissent, qu'ils n'ont pas tendance parfois à analyser, et qui me mettent un peu en porte-à-faux avec cette démonstration mathématique, parce que elle, c'est pas une démonstration sentimentale quand le prof de maths fait une équation au tableau. La démonstration mathématique ou la démonstration logique, ce sont deux types de démonstrations qui sont très rigoureuses, très rationnelles et qui éliminent tout rapport à la sensibilité. Élimination de la sensibilité qui n'est pas présente dans la démonstration des sentiments ou dans la démonstration aérienne d'un avion. Donc, paradoxalement, puisque j'emploie ce terme volontairement à la paradoxe, le paradoxe de la dissertation de philosophie qu'il faut faire surgir à partir de l'analyse des termes, le paradoxe est le suivant. Donc, cette démonstration, elle a à la fois en elle la capacité de se détacher complètement de la sensibilité, du monde sensible, des sens, des sentiments. Et en même temps, on la retrouve employée dans des expressions où apparaissent justement les sentiments, la sensibilité, etc. Donc, c'est de ça que je pars, c'est-à-dire de ce paradoxe.
De cette ambivalence de la démonstration, voilà. Qui renvoie à la fois au sentiment et ou en même temps à l'insensibilité, à la froideur mathématique.
Voilà, exactement. Et puis en même temps, je pense... Alors, comme je suis le jour du bac et que je me dis j'ai eu un cours toute l'année. Puis il y a un personnage qu'on rencontre assez souvent en philosophie qui s'appelle Ménon. Celui qui reste sur place, celui qui décolle pas étymologiquement, comme Joselès, c'est celui qui est un peu demeuré, hein, l'abruti de service que Socrate n'aime pas trop et qui d'ailleurs est mis de côté au moment justement où on va aborder la question dans le Ménon de la démonstration mathématique. On n'appelle pas Ménon, on appelle son esclave. Et cet esclave, il est capable de faire une démonstration mathématique, justement dans toute sa rigueur. En même temps, il y a toute une mise en spectacle de cette démonstration par Platon lui-même. Et ça qui m'intéresse, c'est la proximité de la mise en spectacle, de la monstration, pour employer un terme un peu barbare, et puis de la démonstration rationnelle, rigoureuse. Donc ça, c'est un exemple que j'emploierai cette fois-ci, un exemple plutôt philosophique, justement, pour sortir un peu de mes expressions communes et hisser un peu le sujet, la problématique à un niveau plus philosophique.
Est-ce que vous vous serviriez, parce que ça c'est important aussi pour un élève de terminale, savoir ce qu'il doit faire. Après tout, rappelons que la dissertation est un exercice codifié, qui a des règles, fastidieux d'ailleurs codifié, à cet égard.
Codifié depuis le Moyen-Âge.
Codifié depuis le Moyen-Âge, mais néanmoins il l'est et c'est aussi un exercice auquel il faut se plier le jour de l'épreuve. Est-ce que vous faites intervenir une référence comme le Ménon de Platon dès l'introduction, ou est-ce que vous attendez une éventuelle première, deuxième ou troisième
partie?
Alors,
comme je dis à mes élèves, l'art de la dissertation, c'est de faire comme quand on regarde un épisode, je ne sais pas, une série à la télé avec un thriller ou un polar. Il faut qu'il y ait du suspense. Il faut imaginer que le prof de philo qui corrige, il en a 150 à corriger. Il en a un peu marre. Et puis, donc l'idée, c'est d'accrocher quand même le lecteur, d'accrocher son attention. Donc, on ne donne pas toutes ses armes au début. Par contre, effectivement, mais non, pourquoi je le mettrais, moi, dans l'introduction?
Dès l'introduction.
Oui, parce qu'en fait, je vais me le garder jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, pour rebondir un peu, pour faire un peu, justement, un exercice de style, un exercice rhétorique, je l'amènerai en conclusion de mon travail, puisque, justement, peut-être qu'une des leçons du Ménon, c'est de nous montrer que la démonstration ne peut pas se séparer de ce qu'elle renonce pourtant à habiter, à savoir le monde de la sensation. Pour peut-être compliquer les choses, mais je le ferai peut-être plus tard tout à l'heure, pour introduire une distinction entre sensation et perception.
Alors, avant d'en venir là, parce qu'effectivement, là, on est au bout du bout du bout de la dissertation, la distinction entre sensation et perception, on est toujours dans l'introduction. En peu de mots, la problématique tournerait pour vous autour de l'ambivalence du mot de démonstration, ou est-ce que vous feriez jouer ensemble tous les termes du sujet?
Alors, je vais faire jouer l'ambivalence. Il y a ce petit « on » dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, qui est un « on » anonyme. Un « on » comme le « on » de l'esclave, ça tombe bien, parce que l'esclave, il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom, il n'a pas de « je ». Et ce sujet renvoie quand même aussi, peut-on tout démontrer? Il y a un idéal derrière ce sujet, qui est l'idéal de la disparition du sujet, du « je », de la subjectivité si gênante. Parce que finalement, les mathématiques, ou la logique rationnelle de la démonstration, évacuent le sujet, comme dit Michel Serres. Les maths, ou la démonstration, c'est un monde fermé, sans fenêtre, sans sujet, du cogito, pour parler comme Descartes. Alors, bref, pour dire les choses simplement, parce que les philosophes, une fois nous, les philosophes, on a tendance à compliquer toujours les choses avec les mots bien compliqués. Pour dire les choses simplement, le prof de maths, quand il fait une équation au tableau, il met une blouse blanche. Enfin, il mettait une blouse blanche jadis. Comme s'il mettait au placard son sujet, sa subjectivité, son jeu, comme s'il n'existait pas en tant qu'individu singulier. Et justement, c'est peut-être ça l'idéal de la démonstration, un idéal ascétique, un idéal où disparaît le sujet, cette subjectivité qui nous empêche parfois, peut-être au nom de l'objectivité scientifique, de penser justement, de penser de façon rationnelle, rigoureuse. Et ce « on », peut-on tout démontrer? D'une certaine façon, dans le sujet, on demande de réfléchir là-dessus. C'est-à-dire, qui veut démontrer le « je » ou un « on » qui serait quelque chose de non identifiable, non identifié? Donc moi, je reviendrai là-dessus, parce que, juste à titre d'indice, puisque je me pose la question à ce moment précis de l'introduction, je me rappellerai quand même de Descartes, référence classique des élèves, « Je pense, je suis ». Alors, en général, dans les copies, ça donne... Alors, le fameux Descartes, avec sa célèbre formule « Je pense, donc je suis », voilà, hop, on a mis ça et on est tout content. On peut l'utiliser, là, c'est un conseil de méthode que je glisse en passant, mais alors, il faut restituer l'intérêt de Descartes dans tout ça. Et en fait, je pense, donc je suis, quand Descartes se met à douter de tout, de l'existence du monde sensible, et même des mathématiques, puisqu'il invoque l'hypothèse du malin génie pour dire « si après tout, 2 plus 2 ne faisait pas 4, si après tout, 2 plus 2 faisait 5, s'il y avait pas un, s'il y avait un malin génie qui traînait par là ». Eh bien, Descartes lui-même, qui au nom de la science évacue la subjectivité, évacue la sensibilité, quand il découvre son « je pense », quand il découvre qu'à l'issue du doute, il pense, Quand il dit « je pense, donc je suis », qu'est-ce qu'il fait? Il donne là les fondements du savoir, et notamment les fondements des mathématiques. Autrement dit, réenracine les mathématiques dans la subjectivité. Et c'est ça qui m'intéresse, voilà, parce que finalement, comme si la démonstration était prise au piège tout le temps, ou était prise dans une sorte de tension, qui font que tantôt, elle cherche à éliminer la subjectivité, puis elle la retrouve. Tantôt, elle cherche à éliminer la sensation, puis elle la retrouve. Comme si on ne pouvait pas, justement, faire cette division simple, et finalement peut-être stérile, entre le monde du sensible et le monde de la rationalité.
Mais avant de formuler un jugement de valeur sur la division stérile, comme vous dites, entre le monde sensible et le monde de la rationalité, restons dans l'univers stérile de la dissertation, c'est-à-dire la formulation de la problématique. En une phrase, comment tient-elle la problématique?
Ouais. Peut-on tout démontrer? Moi, ce que je dirais tout simplement, si je rédigeais, donc après avoir mis en place mes deux exemples, je dirais que finalement se pose la question de savoir justement si on peut ou pas séparer sensation, la sensation, le monde de la monstration et le monde justement de la rationalité, de la raison. Voilà, tout, pour commencer, je complexifierais, je dirais, les choses.
Et après, alors justement, une fois qu'on a posé ça, est-ce que vous annoncez le plan dans l'introduction ou est-ce que vous attendez la première partie?
C'est-à-dire que je montrerai après les conséquences d'une telle division. C'est-à-dire que peut-être qu'à trop diviser, à trop scinder en deux, entre la raison d'un côté et le sensible de l'autre, à trop diviniser peut-être la rationalité mathématique, on risque de se fourvoyer quelque part dans ce qu'on pourra appeler de l'insensé, enfin une sorte d'irrationnel. Est-ce qu'à force de trop diviniser, justement, puisque tout démontrer supposerait que quelque part il y a une force, une toute puissance de la démonstration, est-ce qu'à trop la diviniser, est-ce qu'on ne risque pas de sombrer dans de l'irrationnel? Ce qui voudrait dire que la démonstration, puissance de rationalité, serait peut-être capable d'engendrer de l'irrationnel.
Là, on est dans une hypothèse. Kant développe cette hypothèse, mais on l'a peu étudié en terminale, en particulier le moment dans lequel il explique que la raison devient folle et ivre d'elle-même, produit des choses, confond croire et penser et produire des réalités qui en fait débouchent sur des.
Si je dis ça, moi, c'est que je pense aussi à la phrase d'Auguste Comte, qui est toute simple, que j'ai ramenée là.
Dites-le au micro.
Oui. Que les démonstrations paraissent, les aberrations cesseront bientôt. Très clair. Donc il y a cette croyance justement dans cette phrase au fait que quelque part la rationalité nous protégerait, enfin la rationalité de la démonstration nous protégerait des aberrations, comme il dit. En fait, ce que je tiendrai à établir dans cette disserte, puisque il faudra que je fasse un plan tout à l'heure, c'est que peut-être.
Tout à l'heure, c'est maintenant. Maintenant, parce qu'on s'approche, allez-y. Oui.
Alors, dans une première partie, ce que je montrerai, c'est justement l'analyse de cette toute-puissance de la démonstration pour faire surgir ensuite à l'intérieur même de sa toute-puissance, finalement, les causes et les limites de sa propre rationalité, enfin de la dégénérescence, on va dire quelque part, si on peut employer ce terme-là, de sa propre rationalité. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire dans la première partie va en quelque sorte trouver ses limites dans la seconde partie, ce qui me permettra, dans un troisième et dernier moment, de montrer que peut-être, si on se demande peut-on tout démontrer, c'est qu'il y a aussi, je ne l'ai pas encore dit maintenant, mais il y a aussi une idéalisation quelque part de la vérité, comme si la vérité pouvait être établie par votre démonstration, comme si la vérité était une totalité absolue. Et peut-être qu'effectivement, la vérité n'est pas une totalité absolue. Peut-être qu'il faut accepter l'idée que tout ne peut pas être démontré, au sens où la vérité est peut-être, par définition, inachèvement.
Alors, on va aller avec vous, Marie Zemel, dans ce plan, la toute-puissance de la démonstration, les causes et les limites de la rationalité, et puis le fait que la vérité ne soit pas une totalité absolue. Avant d'y aller, juste une remarque. Tout à l'heure, Malika disait que ce qu'il y avait de paradoxal dans ce sujet, c'est que c'était un sujet qui, en même temps, demandait à être traité de façon démonstrative. De sorte qu'il y avait une démonstration qui consistait soit à démontrer qu'on peut tout démontrer, soit à démontrer qu'on ne peut pas tout démontrer, mais qu'au fond, la dissertation était elle-même une démonstration. Or, ce que vous dites, votre propos, Marie Zemel, qui est critique à l'endroit de la toute-puissance de la démonstration, est une critique en elle-même parfaitement démontrée.
Alors, est-ce que c'est une démonstration, ce que je fais? Bonne question.
Est-ce qu'une dissertation ne doit pas être une démonstration?
Une démonstration n'est pas l'idéal absolu de la
dissertation.
Non. Je pense qu'il ne faut pas confondre argumentation et démonstration, puisque l'argumentation peut très bien s'appuyer sur des métaphores, des images, que la démonstration refuse. Et justement, le but de ma troisième partie, sera de montrer qu'on peut parvenir justement peut-être à ce qu'on appellerait une vérité parcellaire. Il suffit pas de recourir à la démonstration, bien au contraire, la démonstration, je crois, est d'une certaine façon pauvre et capable, peut-être pas capable complètement de parvenir justement à la vérité.
On est au lycée Jacques Brel de la Courneuve en compagnie de Marie Zemel ce vendredi dans les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'issue de la deuxième semaine sur la dissertation de philosophie. Deuxième semaine qu'on consacre à la dissertation de philosophie. Peut-on tout démontrer? C'est le sujet du jour. On va partir dans la première partie avec vous, Marie Zemel, sur la question de la toute-puissance, question critique, de la toute-puissance de la démonstration. Élève Emel, nous vous écoutons.
Emel. Là va partir, comme toute bonne élève qui se respecte, de la définition de la démonstration, puisque nous faisons en même temps des remarques de méthode, il faut définir les mots. Or, la démonstration a été définie par Aristote, même si elle a d'abord été mise en scène, imagée, c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs, par Platon. Alors, la définition d'Aristote, je la redonne pour tout le monde, ça fera du bien, même à moi d'ailleurs. Dans l'Organon, livre 4, Aristote écrit... Ce que nous appelons ici savoir, c'est connaître par le moyen de la démonstration. Par démonstration, j'entends syllogisme scientifique. Et j'appelle scientifique un syllogisme dont la possession même constitue pour nous la science. Je m'arrêterai là, je ne vais pas tout lire. Ce que je trouve intéressant dans la définition d'Aristote, dès le départ, c'est qu'il rattache la notion de démonstration à la notion de science. Et c'est peut-être ça qui réapparaîtra dans ma dernière partie, puisque peut-être que la connaissance, en tout cas le savoir, la vérité, n'est pas forcément scientifique. Voilà. Et que ce sujet tend à nous conduire peu à peu, de façon insidieuse finalement, à un idéal de connaissance scientifique, et que c'est peut-être ça que moi, je vais mettre en question dans la troisième partie tout à l'heure.
Marie Zemel, puisque vous commencez avec Aristote, et donc sa définition de la science... Le même Aristote, dans la métaphysique, dans le livre Gamma 4, toujours d'ailleurs de la métaphysique, dit qu'on ne peut pas tout démontrer. Mmh. Il est impossible de tout démontrer. Pourquoi? Parce que si on démontrait tout, on régresserait à l'infini. Puisque au principe d'une démonstration, il faut justement un principe. Si on démontrait le principe lui-même, il faudrait un principe pour démontrer le principe. Et si on démontrait le principe pour démontrer le principe... C'est comme la vache qui rit, on n'en sortirait pas, d'une
Exactement.
Certaine manière. Ce serait une mise en abîme de la démonstration. De sorte que celui qui dit, du point de vue d'Aristote, qu'on peut et qu'on doit tout démontrer, le dit par ignorance de la démonstration elle-même. La condition de possibilité chez Aristote de la démonstration, c'est l'impossibilité de tout démontrer. Il faut de l'indémontrable au principe de la démonstration. Il faut un principe. Et ce principe ne doit pas être démontrable. Aristote prend l'exemple du tiers exclu, par exemple.
Voilà, exactement. Un indémontrable qu'au XIXe siècle, on démontre. Ça donne Riemann, Lobachevsky. Par exemple, je raconte ça souvent aux élèves, entre deux points, que disait Euclide? Euclide disait qu'entre deux points passe une droite. Au 19e siècle, ça, c'est un indémontrable. On accepte. Puis au 19e, il y a un mathématicien qui se dit, si je m'amusais à démontrer l'indémontrable. Et il le fait. Et d'un seul coup, on se rend compte que cet indémontrable est faux. Alors, peut-être pas faux complètement. Aujourd'hui, on dirait pas faux. On dirait que c'est un axiome parmi tant d'autres au milieu de ce jeu qu'on appelle axiomatique des mathématiques. Et là, ça bouleverse tout. C'est-à-dire que cette certitude absolue des mathématiques au XIXe siècle, et peut-être qu'Aristote déjà pressentait finalement, et que Platon aussi pressent, parce que je parlerai après des différentes... Il y a deux façons de faire des mathématiques. Finalement, tout est bousculé. On ne sait plus si les mathématiques sont si certaines que ça. Et à partir de là, les mathématiques vont devenir non pas... un outil rationnel au service que des sciences, elles vont aussi devenir ce qu'on appelle un jeu axiomatique dans l'histoire des mathématiques. Un jeu, J-E-U, au service d'un jeu, J-E, dont je parlais tout à l'heure, qui servira de fondement à ces mêmes mathématiques. Donc un jeu qui joue avec le monde, peut-être des objets mathématiques, qui ne peut pas, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, se détacher de ce monde sensible que pourtant il aimerait bien mettre de côté.
Alors revenons-en donc à la démonstration elle-même, c'est-à-dire à la première partie, en l'occurrence c'est à votre démonstration, Marie Zemel. Une fois que vous avez posé Aristote, où allez-vous ?
Bon, j'ai donné ma définition de la démonstration. Je l'approfondis, c'est-à-dire que la démonstration se définit par une démarche qu'on appelle aujourd'hui hypothético-déductive, hypothèse indémontrable. Et je me dis, ça c'est la démarche classique, celle que les élèves apprennent à l'école. Bon. Avec cette voie-là, on ne va pas bien loin, parce qu'on part de quelque chose qu'on connaît déjà, pour arriver à quelque chose que finalement on va connaître déjà, parce que comme on part de ce qu'on sait pour aller vers ce qu'on sait, où est la richesse, où est l'apport de la démonstration ? Et là, je me dis, oui, mais en fait, les maths, c'est pas que ça. La démonstration, c'est pas que ça. Rappelons-nous de Ménon. Alors, ça me ferait relancer mon exemple de l'introduction, ce qui en même temps donne une cohérence à ma copie. Et je rappelle Ménon à la rescousse et je me dis, qu'est-ce qu'il a donc fait avec l'esclave ? Il a fait deux choses. La première fois, il l'a amené à se tromper. Et ça, c'était volontaire. Il lui dit, on va essayer de résoudre tous les deux ce qu'on appelle la duplication du carré. C'est-à-dire, on va calculer la surface double d'un carré. Exercice périlleux pour un élève qui s'appelle l'esclave, parce qu'il est esclave, donc il n'a pas vraiment eu une scolarité très, très suivie. Il ne connaît rien aux maths, donc forcément, très facile de l'induire peu à peu en erreur. Enfin, ce qu'on appelle l'erreur, ce n'est pas une erreur. C'est que le pauvre esclave, il tombe sur un obstacle de taille pour un grec à cette époque-là. Il découvre la racine de 2. Et la racine de 2, quand on cherche à la calculer, on ne peut pas la calculer, puisque par définition, elle est infinie. Or, un grec n'a pas le sens de l'infini, ne peut pas comprendre la notion d'infini. Pour lui, le monde est clos, fermé, fini. C'est l'ouverture à l'irrationnel, l'infini. La petite histoire raconte que celui qui a inventé la racine de 2, il s'appelle Pythagore, enfin un élève de Pythagore, avait découvert par hasard cette racine de 2, il monte dans un bateau, et bien sûr, colère des dieux, naufrage, etc., etc. Fallait pas, surtout pas toucher à l'infini. Donc bref, l'esclave, il est dans le même cas. Donc il arrive à la racine de 2 au moment où il fait son calcul et il se dit, non, il laisse tomber, il préfère se tromper plutôt que de se heurter à la colère des dieux. Comme quoi la démonstration tient un peu de choses. Donc c'est pas grave, dit Socrate, on va faire le problème à l'envers. Partons de l'erreur que tu as commise et donc cette fois-ci il ne va pas partir de démonstration classique, il va partir géométriquement de dessins faits sur le sol. Comme si justement pour venir au secours de la démonstration, d'un seul coup, on mettait en jeu un spectacle, une monstration de la démonstration. Comme s'il fallait faire des dessins sur le sol, dessiner justement la surface double, mais en repartant de ce que l'on sait, pour sortir de l'impasse de cette même démonstration. Donc ça, ça m'intéresse, parce que dans ma seconde partie, justement, tout à l'heure, je montrerai que cette distinction entre le sensible et le monde de la démonstration n'est peut-être pas si évidente que ça, justement.
Alors ici, donc, monstration de la démonstration, pour mémoire, hein, ouais. Socrate, sous réserve que l'esclave en question parle le grec,
ouais,
se propose de démontrer à Ménon qu'au fond, il n'apprend rien à personne, mais qu'il ne fait que faire accoucher les gens de ce qu'ils portent en eux. Socrate, d'ailleurs, à cet égard, dit qu'il fait le même métier que sa mère, qui était sage-femme, à ceci près qu'elle faisait accoucher les corps et lui fait accoucher les esprits. Et donc, il fait accoucher l'esprit de cet esclave, ce qui, paradoxalement, chez Platon, est un grand texte démocratique, en un sens, puisqu'il montre que l'esclave a les mêmes capacités que le savant, le scientifique, ou bien, en l'occurrence, le roi des philosophes. Alors, dans le Ménon, il faut donc le secours d'un spectacle pour parvenir à une démonstration mathématique. Est-ce qu'on n'est pas là dans un cas de figure où la démonstration demeure première et finalement se sert de la sensibilité comme d'un outil
toujours
pour parvenir à ses fins, Marie Zemel?
Toujours. De la même façon que Platon fait des pièces de théâtre, finalement, pour secourir quelque part un texte aride.
Je dirais finalement, ou l'emploi des mythes chez Platon.
Voilà, exactement. L'emploi de l'image, toujours seconde par rapport à un discours très rationnel. Ce que refusera Nietzsche. Bon, parce qu'après, on va, plus tard, tout à l'heure, justement, l'intérêt de ce sujet, qui finalement, je le rappelle, est quand même un sujet très difficile, comme le disait tout à l'heure Malika, je crois, ou Mélissa, c'est pas facile de traiter de ce sujet, parce que c'est toute une réflexion, finalement, sur la rhétorique aussi qui se profile à l'arrière-plan. C'est-à-dire comment dire les choses, comment parvenir à établir la vérité de quelque chose, sachant finalement que le problème numéro un, je n'ai pas encore abordé la question, mais ça justement apparaît dans cette première partie, c'est l'équivocité fondamentale des mots. Or, la démonstration, elle nous soulage pour ça, elle est pratique. Elle a son langage. Un langage épuré de toute équivocité, justement, un langage qui n'a pas besoin d'interpréter. Un 1, c'est un plus, c'est un plus. Bref, ce n'est pas compliqué de faire une démonstration à partir du moment où on a un langage qu'on maîtrise de façon simple. À Leibniz disait lui-même que pour régler les problèmes, justement, il fallait essayer de créer une sorte de caractéristique universelle, une sorte de langage qui réglerait toutes les ambiguïtés, toutes les équivocités, tous les malentendus. Et quelque part, dans Peut-on tout démontrer ? Ce serait tellement pratique de tout démontrer pour éviter aussi les conflits avec les individus, les conflits sentimentaux, les conflits politiques. N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'Auguste Comte écrit aussi ? Je pense que j'aurais lu parce que j'ai retrouvé ce texte-là tout à l'heure. Je suis en train de m'emmêler entre Auguste Comte et Leibniz.
Encore un point, puisqu'on est encore dans la première partie, Marie Zemel, et avant aussi de demander leur avis à vos élèves, puisqu'on est dans la première partie, Marie Zemel, dire qu'on peut tout démontrer, est-ce que ça n'implique pas qu'on puisse démontrer une chose et son contraire ? Par exemple, prenons l'exemple de l'existence de Dieu. Vous avez des philosophes qui vous démontrent l'existence de Dieu, à coup sûr. Vous avez des philosophes qui vous démontrent l'inexistence de Dieu, à coup sûr également. De sorte que si l'on peut tout démontrer, ça veut dire qu'on peut à la fois démontrer que Dieu existe et dans le même temps que Dieu n'existe pas. Est-ce que, de ce point de vue, l'hypothèse qu'on puisse tout démontrer n'est pas une hypothèse qui se tire une balle dans le pied, qui se renverse sur elle-même, au sens où dire qu'on peut tout démontrer, c'est d'une certaine façon détruire la démonstration au lieu de l'affermir, en montrant qu'on démontre une chose, mais également, pouvoir tout démontrer, c'est démontrer une chose, mais également son contraire.
Alors, quand je prends l'argument en classe, quand je démontre la preuve de l'existence de Dieu, là, de façon de Saint Anselme, par exemple, Dieu est parfait, donc, de par cette définition de Dieu, il n'a pas pu oublier dans sa perfection d'exister. Alors je fais ça comme démonstration rapide aux élèves, et ils me disent, c'est ça la preuve de l'existence de Dieu, comme si finalement ils étaient déçus. C'est vrai que ça déçoit la démonstration quelque part. Ça ne nous apporte pas grand-chose de plus. C'est-à-dire qu'on attend autre chose. Il y a une ouverture qui n'est pas là. C'est peut-être ça que je voudrais peut-être souligner. C'est que la démonstration, c'est un monde clos, un monde fermé. Je reprends mon image de Michel Serres tout à l'heure. Un monde fermé sans fenêtre, sans ouverture. Un monde qui se suffit à lui-même. Un monde, certes, qui va se heurter tout à l'heure comme outil, on va dire, au monde de la science, qui va permettre des connaissances scientifiques, qui va créer une réalité scientifique, mais une réalité peut-être pauvre par rapport à la réalité du monde qui nous entoure. Parce que la démonstration oublie une chose, peut-être, comme dirait Merleau-Ponty.
Le chatoiement.
Peut-être. Moi, j'appellerais ça la chair.
La chair. Il emploie les deux termes. Ouais. On va juste. Il faut justifier l'enchaînement à la deuxième partie. Et avant de demander leur avis à vos élèves, Marie Zemel, comment concluriez-vous cette première partie, ce qui justifierait qu'on passe à une seconde partie ?
Alors, de toute façon, la première partie, donc, je vais à chaque fois souligner. Si je résume en petit A, petit B, petit C, ce que je déteste faire, et mes élèves le savent très bien, c'est j'ai horreur de ça. Mais là, je vais me prêter à l'exercice. Donc, petit A du grand 1, c'était de montrer justement cette séparation avec le monde sensible. Il est clair que je vais montrer à la fin du premier moment de ce petit A que ça a des limites et que ça va me permettre justement de patienter dans ma deuxième partie à analyser les limites de ce refus de la sensibilité, puisque la sensibilité est là. De la même façon que, effectivement, il y a une fermeture de ce monde de la démonstration sur lui-même qui conduit finalement quelque part à la nécessité à un moment donné d'en sortir. Et donc, ça va me permettre de parler, de souligner les limites et les failles, hein, quelque part, de cette clôture sur soi du discours démonstratif. On peut démontrer aussi, et là, ça serait la dimension plus polémique et plus violente de ce sujet, la rationalité peut parfois être au service de causes dangereuses.
Donc là, ce sont les trois objections que vous formuleriez à la fin de la première partie.
Plus le langage, dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure. C'est bien d'avoir un langage univoque, mais en même temps, c'est un langage qui ne crée rien.
D'accord. Donc là, on est au terme de la première partie. Adèle, peut-être.
Oui, avant de passer à la seconde partie, est-ce que cette idée de la démonstration qui déçoit finalement ce que vous disiez, Marie Zemel, qui à la fois est limitée, exclut nécessairement quelque chose, la sensibilité, mais aussi qui déçoit, est-ce que c'est une idée sur laquelle vous auriez insisté, par exemple, Malika ? Ou est-ce que vous auriez, dans votre première partie, insisté sur plutôt un autre aspect ?
J'aurais plus insisté sur l'aspect de l'objectivité. Je prends l'exemple des théorèmes qui mettent en œuvre des principes et des réciproques, ou des additions qui mettent en place aussi, enfin qui utilisent la vérification pour justement justifier l'addition en elle-même. Et en limite, j'aurais plus parlé de la perception et de la subjectivité.
C'est-à-dire pour dire quoi ?
que finalement, la démonstration, pour qu'elle soit approuvée, généralement, on utilise souvent l'objectivité, plus l'objectivité que la subjectivité. Donc, du coup, ça voudrait dire que la démonstration n'est pas si parfaite.
Voilà, donc vous retrouvez cette idée de la limitation de la démonstration dont parlait votre professeur. Nazir Habiboula, est-ce que vous avez une idée de première partie qui diffère de celle de votre professeur ou de celle de Malika?
En fait, je n'aurais pas fait tout à fait comme la prof, même si en fait, son grand teint, il est intéressant. Je pense que j'aurais plus eu le fait qu'il y a plusieurs outils qui permettent de démontrer. En fait, j'aurais plus vu ça comme ça. Ce serait une attaque principale, on va dire, pour la dissertation. Donc, j'aurais vu que bah, y a d'abord la logique, qui est un outil qui permet de tout démontrer, qui est en fait utilisé bah, notamment dans les mathématiques, mais qui peut justement être faussé. Mais ça, on le verra après dans le grand 2. Bah, par exemple, bah, comme elle disait, avec le fait que ça peut être subjectif, et qu'en fait, si dès le départ, la logique est mal fondée, tout le reste est faussé. Donc, il y a d'une part cette logique-là qui permet de démontrer, mais je pense qu'il y a aussi la logique scientifique donc, et la logique personnelle qui se réussit en fait de vécu et d'expérience personnelle qui donc, font qu'on pourrait juger les choses.
Donc, vous retrouvez aussi cette opposition entre l'objectivité et la subjectivité dont parlait Malika.
Ouais, plus ou moins. Ouais.
Et Mélissa Salvan, est-ce que vous avez une autre chose à apporter?
Moi, dans mon grand temps, j'aurais parlé des rapports à la démonstration. Donc des preuves, des mathématiques, etc., enfin, du rapport aux sciences. Dans le grand 2, j'aurais parlé des paradoxes de la démonstration et notamment que c'est opposé à la vérification, puisque dans la vérification, on appuie une hypothèse déjà, enfin une hypothèse, une vérité déjà établie qu'on appuierait, et la démonstration, c'est vérifier une hypothèse donc, qui n'est pas encore... Et dans mon grand 3, j'aurais parlé au final qu'elle visait... à la démonstration.
Enfin, donc, pendant que votre professeur présentait une partie, vous avez déjà trouvé vos trois parties, en fait. Bravo.
Plus ou moins.
Et mon Dieu, c'est l'arithmétique et c'est Ravel qui vient ponctuer cette émission. Ce vendredi, peut-on tout démontrer? C'est le sujet du jour. Nous sommes au lycée Jacques Brel de la Courneuve en compagnie de Marie Zemel et de trois de ses élèves. On s'est posé la première question qui était de savoir si l'on pouvait tout démontrer. Et on en est venu à la fin donc, de la première partie à pointer à la fois le danger et la fadeur, en un sens, qu'il y aurait à vouloir tout démontrer. On en vient à la deuxième partie, Marie Zemel. Comment articulez-vous cette deuxième partie? Est-ce que vous êtes dans le droit fil d'une démonstration, c'est-à-dire allez-vous démontrer qu'on ne peut pas tout démontrer, ce qui en un sens serait contradictoire et ce qui plaiderait en faveur du sujet que vous contestez, ou bien est-ce que vous allez opposer d'autres formes d'arguments à l'idée qu'on puisse tout démontrer?
J'aimais bien déjà ce qu'avait dit Nazir, là, je vais récupérer le wagon de ce qu'il a dit. Il a dit tout à l'heure, il n'y a pas que la démonstration, il y a d'autres façons d'argumenter. Effectivement, et il parlait de la logique. La démonstration, comme d'Aristote, c'est un argument logique parmi d'autres. Il y en a d'autres, d'autres façons d'argumenter. Et moi, donc, ça relève pas d'une démonstration, ce que je vais faire. Je vais plutôt essayer de forcer un peu la démonstration dans ses retranchements pour garder une image. Je suis plus quelqu'un de l'image, de toute façon, que quelqu'un de la démonstration.
C'est Albert Camus qui disait qu'on ne pensait bien que par image. Alors justement, quelle image, de quelle image vous servez-vous? D'abord, comment est-ce que vous intituleriez, s'il fallait donner un titre à la deuxième partie, vous l'appelleriez comment? Quel est finalement son fil directeur?
Son fil directeur, ça veut dire en fait, c'est presque une implosion interne que je vais mettre en place de la notion de démonstration.
Implosion voilà. Interne de la notion de démonstration.
On est à la Courneuve, hein, y a eu les tours qui ont implosé, alors c'est tout à fait d'actualité, c'est lié au lieu peut-être. Implosion, hein. C'est quand ça ne va pas, il faut faire imploser. Peut-être que de l'implosion surgira peut-être quelque chose. Comme dit, je vais partir de Merleau-Ponty, là encore, parce que finalement, c'est aussi un peut-être de mes fils conducteurs dans ce sujet avec Ménon. Voir, c'est avoir à distance. C'est une formule qu'il emploie dans l'œil et l'esprit. Parce que l'œil et l'esprit, forcément, c'est une référence plus ou moins indispensable pour ce sujet.
Rappelons que l'œil et l'esprit commencent par l'idée que la science manipule les choses, mais ne les habite pas.
Ouais, exactement. Et donc, moi, je suis pour habiter les choses. Et comment habiter cette démonstration quand un lieu est insalubre? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, au 4000, on a fait imposer les tours. Donc, voilà. Donc, moi, je fais imposer le concept. Et première chose que je note, j'ai déjà dit tout à l'heure en introduction, je vais le remettre là en ordre, en quelque sorte, dans cette deuxième partie. Tout d'abord, ce que disaient d'ailleurs mes élèves à l'instant, cette méfiance que nous pouvons avoir à l'égard de la subjectivité au nom de l'objectivité. Bon, ça, c'est la première chose que j'analyserai dans ce deuxième moment, à savoir qu'il n'y a pas d'objectivité. Voilà. Il n'y a pas d'objectivité, c'est la science elle-même qui crée le concept d'objectivité, qui en a besoin du concept d'objectivité. C'est la démonstration qui va dire qu'elle est objective. Mais finalement, c'est quoi la subjectivité si ce n'est la réflexion du sujet? La réflexion du sujet qui pense. Qui pense, comme dit Ricoeur, en ayant forcément conscience d'une seule chose, c'est qu'il doit être authentique et essayer de chercher à atteindre justement cette vérité. Donc la subjectivité n'est pas un défaut, quoi qu'on dise l'école, quoi qu'on ait pu... Souvent les élèves ont compris de travers cette critique de la subjectivité, puis même les adultes, tout le monde comprend de travers. Si on n'était pas un sujet, comment penserait-on? Enfin, je veux dire, comment pourrait-on faire quelque chose? Donc autrement dit, même les mathématiques, comme je disais en introduction tout à l'heure, sont prises au piège, puisqu'elles-mêmes sont fondées, par exemple dans le texte de Descartes, par la subjectivité du sujet qui pense. Même donc les mathématiques n'échappent pas à ce jeu. À ce jeu qui fait... ça, c'est la première chose pour imploser, en quelque sorte, peut-être cette prétention...
En somme, ce que vous faites là, c'est que dans le « peut-on tout démontrer », vous enlevez le « on ».
Je le vire, oui. je suis simplement... Parce que le « on », c'est tellement facile de ne pas dire et de ne pas reconnaître, de ne pas prendre la responsabilité de ses actes. Donc le « on », c'est le « on » de la facilité. Donc autrement dit... Moi, en tant que je qui pense dans la copie, je dirais, bah oui, effectivement, je prends le risque de dire que ce on, bah, il ne pense pas, comme dira Heidegger. Hein. Donc ça, c'est la première chose que je mettrai en place dans cette deuxième partie. Les illusions, en quelque sorte, alors voilà la sonnerie qui arrive, les illusions de la démonstration. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la démonstration, force de rationalité, qui tente à se protéger de l'erreur, ne sait faire qu'une seule chose, se perdre quelque part dans l'illusion qui est peut-être encore plus terrible que l'erreur, puisque l'illusion, en fait, n'est pas, ne se guérit pas de la même façon qu'on guérirait une erreur.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que l'illusion trouve sa source dans le désir, comme dirait Spinoza. C'est-à-dire que je m'illusionne, je me joue d'un certain nombre de choses, je me joue de la réalité... à cause d'un désir très profond, finalement, qui est au fond de moi. Peut-être que le désir de vouloir tout prouver, de pouvoir tout démontrer, peut créer une certaine forme, justement, d'illusion, comme je disais à l'instant. C'est-à-dire d'irrationalité. C'est à ça que je voudrais arriver dans cette deuxième partie. C'est pour ça que je fais imploser le concept de démonstration, parce qu'il ne nous met pas du tout à l'abri de l'irrationnel. On sait très bien que la raison a toujours été capable du pire, en termes d'irrationnel, c'est ce qu'on explique souvent aux élèves. Et peut-être que sur ce sujet-là, c'est de façon assez lointaine, mais c'est quand même présent, c'est de façon présente quand même de façon implicite dans ce sujet. Jusqu'où la raison peut-elle prétendre détenir le monopole de la rationalité?
C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous faites valoir, Marie Zemel, c'est que dans le « peut-on tout démontrer », il y a une forme d'optimisme qui est au fond l'optimisme des Lumières, voilà, qui consiste à dire que de la même façon qu'on peut tout démontrer, plus on progresse en connaissance, plus on progresse en morale. Voilà. Or, ce que le XXe siècle enseigne, c'est qu'on peut être extrêmement savant tout en étant un monstre.
Exactement. On peut être très bon en démonstration et être capable de démontrer l'inacceptable. On peut prendre comme exemple, même si c'est très lointain par rapport à ce sujet, on peut se rappeler que la solution finale, c'est quand même le résultat d'une démonstration et d'une rationalité technique épouvantable.
Mais pourquoi vous parlez de démonstration à ce moment-là? Rationalité technique, je veux bien, mais quelle démonstration?
Une démonstration, finalement, peut s'appuyer sur n'importe quoi. C'est un exercice de style, la démonstration. Elle s'interroge très peu sur le contenu de ce qu'elle va défendre. On peut démontrer des choses, comme je disais à l'instant, inacceptables et inacceptées par moi-même, en tout cas. Et inacceptables, peut-être, pour non pas le raisonnable, mais pour l'éthique en tant que telle. C'est-à-dire que, quelque part, ce qui manque à la démonstration, c'est une réflexion critique sur elle-même. peut-être parce qu'elle n'en est pas capable. Comme ça, je parlais d'Heidegger tout à l'heure, la science ne pense pas, la technique ne pense pas. La démonstration est un très bon outil. Et là, on retrouve le problème de la rationalité technique et des moyens dans ce sujet. Un très bon outil, et comme tout outil, elle ne se pose pas la question du pourquoi elle fait ça.
Est-ce qu'au terme de cette deuxième partie, Marie Zemel, vous êtes sur une logique qui consiste à restreindre le champ d'application de la démonstration, ou bien à penser que la démonstration doit juste se critiquer elle-même et se mettre elle-même en garde contre ses propres moyens?
Alors, c'est-à-dire que ça, je montrerai dans ma deuxième partie, effectivement, ce qu'on vient de dire à l'instant. Ce que je montrerai aussi, c'est que peut-être on peut la sauver quand même, la sauver sur un plan. Je reprendrai l'exemple du Ménon. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu mon fil d'Ariane. Je trouve que c'est toujours une bonne idée d'avoir un fil d'Ariane dans une copie parce que ça permet de s'accrocher. J'ai perdu mon idée à l'instant même.
Non, mais donc comment feriez-vous donc dans la deuxième partie? On arrive au terme. Il faut qu'on conclue la deuxième partie pour en venir à la troisième.
Oui.
Comment concluriez-vous la deuxième partie? Est-ce que vous concluriez la deuxième partie sur le fait qu'on ne peut pas tout démontrer? Ou est-ce que vous concluriez la deuxième partie sur le fait que c'est toujours un jeu qui démontre et donc la démonstration doit se méfier de ses prétentions?
Maintenant, mon idée me revient. Il y a deux façons de parvenir à un résultat mathématique. Il y a la voie d'invention et la voie synthétique. La voie synthétique, la voie analytique au départ, celle que finalement Descartes qualifie lui-même de voie paresseuse, comme il dit, c'est tellement facile, se tromper en mathématiques, c'est même impossible avec ce système-là, on part d'une hypothèse, on déduit, puis voilà. Aucun intérêt. Par contre, là où ça devient intéressant, et c'est pour ça que je parlais du Ménon à l'instant, c'est comme fait l'esclave, c'est-à-dire partir dans l'autre sens, partir par rechercher, faire appliquer ce qu'on appelle la méthode de découverte. La mathématique nous a appris une chose. Elle nous a appris à découvrir ce qu'on ne connaissait pas. Et en philosophie, puisque quand même faut que ce sujet peut tout démontrer, renvoie quand même à l'exercice qu'est la philosophie, mine de rien. Ce qui nous intéresse en philo, c'est finalement de chercher le fondement, chercher ce qui nous amène à croire telle ou telle chose, à avoir telle certitude. Chercher le fondement, eh bien voilà, c'est peut-être ce que nous apprend les mathématiques. C'est-à-dire, quelque part, les mathématiques nous donne un exemple à suivre. Et là, la démonstration, de façon intéressante, redevient sensible, redevient image, devient modèle à suivre.
On est donc ici à la fin de la deuxième partie. Faire de la démonstration quelque chose de sensible, un élément, une sensibilité, une image. On arrive ici dans la troisième partie. Est-ce que c'est à cette hypothèse, que vous allez donner sa chance dans la troisième partie?
La troisième hypothèse que je vais garder maintenant, c'est comment réconcilier finalement ce qui se sépare depuis le début de ce sujet. C'est-à-dire d'un côté la rationalité, de l'autre côté le monde sensible, d'un côté l'image. Comment faire pour s'en sortir? Effectivement, on pourrait en rester à une dichotomie, on pourrait rester une séparation radicale de ces deux mondes. Et dans cette troisième partie, je vais essayer de montrer que justement, tout le présupposé qui sous-tend le sujet depuis le départ, finalement, ne tient peut-être pas la route face à ce qu'on pourrait appeler une autre façon d'appréhender le monde, peut-être que par la voie classique de la connaissance scientifique et démonstrative. Peut-être qu'il faut l'habiter, ce monde, comme dit Merleau-Ponty, on disait ça tout à l'heure. Peut-être que le monde n'est pas réductible à une connaissance scientifique. Peut-être que le monde, justement, il faut l'habiter et que peut-être pour justement l'habiter, ce monde, il ne faut pas simplement chercher à le connaître, mais chercher d'abord à le comprendre, chercher à dégager le sens. Donc, plutôt que de tout démontrer, ce qui ne nous amène pas, enfin, ça nous a conduit quelque part, ça ne nous a pas mené nulle part, mais ça ne nous a pas mené bien loin, sauf à déconstruire finalement le concept de démonstration. Peut-être que justement, plutôt que de chercher à connaître le monde, à ramener tout à du connu, peut-être faut-il admettre, comme dit Merleau-Ponty, qu'il y a une part justement d'inconnu, d'irréductible. Peut-être qu'effectivement, c'est peut-être ça, philosopher, c'est admettre, et là je reviens à ce que je disais en intro avec Descartes, admettre nos limites, mais des limites qui sont paradoxalement une ouverture justement vers autre chose. Et là, je rattacherai peut-être la philosophie à celle, à ce monde qui n'est pas le sien et avec lequel elle a toujours eu des problèmes assez complexes, comme Platon a pu le mettre en scène dans plusieurs de ses textes, c'est-à-dire le rapport de l'art et de la philosophie.
Alors, il faut rappeler ici, vous parlez des problèmes que Platon aurait eu avec l'art, il faut rappeler que dans le grand texte de Platon qui s'appelle La République, Platon propose à deux reprises d'exclure les poètes de la cité, au motif que ce qu'ils disent ne sert pas à l'éducation des enfants. Et c'est donc, Platon formule des textes qui sont des textes canoniques de la censure, de ce qu'on a appelé la censure. Et donc Platon, dont vous faites grand cas, depuis le début, se découvre ici dans une troisième partie, Marie Zemel, comme un, d'une certaine manière un poétophobe, que vous n'êtes pas, manifestement.
Donc, je ne suis pas.
Comment faites-vous dans ces conditions? Est-ce que vous allez, après vous être servi du Ménon, abondamment, allez-vous, pour faire valoir d'ailleurs le fait que toute démonstration était une monstration, on a vu, hein, que vous montriez un spectacle, comment vous faites dans la troisième partie? Donc, que faites-vous? Faites-vous un sort à la République de Platon, en l'occurrence, et à ces moments platoniciens où il veut exclure les poètes de la cité? Quels exemples, en somme, vous permettent de dire, parce qu'on s'approche du terme de cette dissertation, et je voudrais que les élèves puissent donner leur avis aussi, quels exemples vous permettent de dire, Marie Zemel, qu'il y a un au-delà ou un en-deçà de la démonstration et qu'au fond, on ne peut pas tout démontrer?
Je partirais de tout à fait autre chose pour terminer mon devoir, pour d'abord aérer l'esprit de mon public en fin de cette heure très longue. Je partirais de l'analyse d'un tableau. Je prendrais un tableau, puis je me dirais, si on analyse un tableau, est-ce qu'on fait de la démonstration? Quand on est face à l'arrêt de Chardin, je les ai emmenés plusieurs fois voir ce tableau, ils aiment bien l'arrêt. On se dit, c'est un vulgaire poisson. Bon, je vais démontrer que Chardin a appliqué sa théorie du goût, etc. Il nous dégoûte face à, devant ce poisson qui n'est pas très beau, qui est dégoulinant de partout. Donc, effectivement... Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux tirer de ce tableau? Maintenant, si je démontre, c'est vrai que je ne vais pas aller bien loin. Et puis je regarde et je tiens et j'habite le tableau. Je ne me mets pas à distance ce tableau comme le ferait le regard du scientifique, comme le ferait le regard du démon, de celui qui démontre. Si je l'habite ce tableau, je me dis bah, c'est bizarre cette raie. Elle a un drôle de sourire, comme la Joconde, comme si Chardin s'était amusé à repeindre de façon peut-être ironique la Joconde. Et puis je la regarde encore de plus près, cette raie, et je trouve qu'elle a un côté quand même assez sensuel. Je me dis, tiens, c'est peut-être un tableau qui évoque le plaisir et la jouissance féminine, pourquoi pas, après tout, quand on regarde de près le tableau, et qu'on évacue la référence à la raie, on trouve d'étranges proximités avec la morphologie féminine. Et puis peut-être que ce tableau ressemble aussi de façon étrange à un Christ crucifié, après tout, parce qu'il est en plein milieu, il est écartelé, mais c'est vrai qu'il sourit. Elle sourit, cette raie. Elle sourit comme si le peintre, finalement, rigolait un petit peu quelque part de la situation de ce spectateur pris au piège du tableau, lui aussi, avec le couteau qui dépasse, comme s'il nous tendait le couteau pour aller nous-mêmes aller chercher, couper la raie. Bref, tout ceci pour dire que je n'ai pas la traduction, je n'ai pas la signification totale de ce tableau. Je pourrais m'amuser comme ça à additionner des références, des interprétations. Et là, j'emploie le mot que je voulais faire venir dans cette troisième partie, qui est le mot « interprétation ». Parce que la démonstration, elle n'interprète pas. La démonstration ne cherche pas le sens. La démonstration cherche à connaître, à accumuler des connaissances. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'homme est un homme dans le monde, si ce n'est qu'il se pose la question du sens du monde dans lequel il vit? Or, Chardin, il nous offre, par ce tableau-là, une réflexion sur le sens de la vie. Comme d'autres peintres, j'aurais pu prendre d'autres peintres comme exemple. J'aurais pu parler, là je n'ai pas de nom qui vient à l'esprit particulièrement, mais pour ma disserte, j'aurais pris Chardin tout simplement parce qu'il a une richesse d'interprétation dans ce tableau qui est pratique pour une disserte. Et je me dis finalement, celui qui veut tout démontrer, ce qu'il fuit d'abord, c'est le travail d'interprétation, le travail de compréhension du monde dans lequel il habite. C'est-à-dire ce qu'il fuit, c'est le monde. Ce qu'il fuit, c'est la vie. Et la démonstration, elle a quelque chose finalement de rigide, presque de frigide, j'allais dire, à la différence de l'arrêt de Chardin, qui fait que, quelque part, ce sujet fait intervenir une des notions au programme qui n'apparaît pas de façon explicite dedans, qui est la notion d'interprétation.
Voilà, on a compris qu'à trop subir les lois de l'esprit, le monde perdait son âme. On va interroger vos élèves, peut-être, Adèle.
Oui, peut-être en guise de conclusion. Est-ce que d'après la conclusion, l'esquisse de conclusion que vous venez de proposer, Marie Zemel, où vous passez de la démonstration à l'interprétation, et vous montrez bien que la notion même de vérité, finalement, il faudrait avoir une conception de la vérité qui soit plus inachevée pour pouvoir...
Ça serait, en fait, ma position, c'est celle-là, c'est que la vérité est inachèvement.
Voilà, c'est ça.
La vérité est ouverture, tout le contraire de la démonstration et du cadre de la dissertation.
Et Malika Ouedraogo, je crois qu'au début de cette dissertation, vous aviez tout de suite introduit l'idée de vérité comme étant essentielle dans le traitement de ce sujet. Est-ce que vous concluriez là-dessus?
Oui, je conclurais sur le fait que toute vérité est relative et que finalement, la démonstration, c'est quelque chose d'infini et non pas fini, comme on pourrait le croire. Et que, justement, je rejoins mon professeur en admettant que l'interprétation peut faire aussi l'objet d'une démonstration. et que, en fait, j'en reviens encore plus loin, j'en reviens à dire que, en fait, finalement, on pourrait même être amené à douter de toute démonstration. Et si on doute d'une démonstration, ça voudrait dire que les démonstrations en elles-mêmes, elles ne sont pas forcément vraies, ou tout simplement elles reposeraient sur des principes, mais ces principes en eux-mêmes peuvent être eux-mêmes être illogiques. Enfin, en guise de conclusion, je pense que à vouloir trop démontrer, on tomberait dans un millimélo. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire.
Pour continuer la mise en abîme de la conclusion de la démonstration de la dissertation.
La démonstration m'a contaminée.
Rappelons que c'est Malika qui a pointé que la démonstration et la dissertation étaient elles-mêmes une démonstration.
Voilà, d'où la mise en abîme que vous incarnez maintenant. Et Nazir Habiboula, est-ce que vous avez une autre conclusion à nous proposer?
Contrairement à la prof, j'aurais pas fait une ouverture vers l'interprétation, parce que, enfin, il y a certaines méthodes qui disent de le faire, hein, d'autres non. Je préfère éviter de prendre ce risque. Mais je pense que je dirais plus que démontrer, c'est vraiment finir quelque chose, c'est clôturer quelque chose, et c'est comme cerner le sujet de ce qu'on veut démontrer. Alors qu'en fait, non, ça dépend des points de vue. Et vu que le point de vue peut changer et peut diverger à chaque fois, on peut pas vraiment démontrer. C'est ouvert et c'est infini. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à ajouter, quelque chose qui changera. Donc
tu avais une conception plus relative de la démonstration, et ça revient à ce que vous disiez sur l'importance de la subjectivité contre l'objectivité.
Ouais, voilà. Donc en fait, c'est ça.
Et Mélissa Salvant ?
Alors moi, j'aurais tout simplement dit, en guise de conclusion, que l'homme est plus apte à interpréter les choses qu'à démontrer. Il ne peut établir de vérité, contrairement aux machines qui peuvent fonder des preuves concrètes. Et donc, il est plus apte à interpréter.
Donc, dans le combat démonstration-interprétation, c'est l'interprétation qui gagne pour tout le monde, je crois.
Voilà.
L'art de compter avec exactitude, l'art de compter avec exactitude est fort nécessaire ici-bas. C'est pour avoir négligé son étude qu'on trouve tant de fous, hélas, tant de fous qui ne calculent pas.
Merci Marie Zemel et merci à vos élèves. Avec vous s'achèvent les deux semaines que les nouveaux chemins de la connaissance auront cette année consacrées au bac philo. Deux semaines dont vous pouvez réentendre la première et télécharger la seconde sur notre site internet à la page des nouveaux chemins, où vous trouverez également le plan détaillé et les bibliographies de tous les professeurs de la semaine. Merci au lycée Jacques Brel de nous avoir accueillis pour ces ultimes enregistrements. Et bon courage du fond du cœur à ceux d'entre vous qui passent le bac dans quelques jours. Travaillez, révisez, ne croyez pas ceux qui vous disent de vous détendre. Vous aurez tout l'été pour dormir. Dans l'immédiat, fatiguez-vous, concentrez-vous, n'ayez pas peur d'avoir peur. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas pour des artistes. Ce sont les derniers conseils.
Cultivate, get the art completely. Calculate, carefully and neatly.
Changement de décor la semaine prochaine, puisque nous vous parlerons d'histoire avec un grand H dans les nouveaux chemins de la connaissance. À lundi prochain, donc de 10h à 11h.
Calculate, ere you are aware. Calculate. Better far than you if you don't take care.
10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.